Ce matin, j'aimerais vous parler d'eau, j'aimerais vous parler de fleuve et lire simplement avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 7 et au verset 37. Chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, tout est une histoire de foi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, c'est-à-dire de son être intérieur, des fleuves d'eau vive couleront de son être intérieur, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Jésus assimile clairement le Saint-Esprit dans la symbolique, non pas à un fleuve, mais même à des fleuves, pour démontrer une abondance de vie pour nous. On lit aussi ensemble dans le livre du prophète Ézéchiel, s'il vous plaît, au chapitre 47. Et au verset premier, une lecture qui sera un petit peu plus longue. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de richesses, beaucoup de petites perles à ressortir de ces textes. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené au bord du torrent, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, par contre, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, leurs fruits n'aura pas de fin, ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles serviront de remède. Amen. Il y a des choses vraiment importantes à considérer ici, ensemble ce matin. Ce qui est intéressant, c'est que concernant la vie de l'Esprit, concernant ce fleuve, ces fleuves qui symbolisent le Saint-Esprit, c'est que nous sommes autant dans le fleuve que le fleuve est en nous. Jésus dit à celui qui croit, des fleuves couleront de son être intérieur jusque dans la vie intérieure. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait à la nouvelle naissance, il dépose en nous une source. Et cette source, il faut pas que je la bloque, il faut pas que je fasse barrage, il faut que je la laisse se manifester, il faut que je la laisse se développer, il faut que je la laisse couler. Mais le Saint-Esprit, c'est pas dans ma tête, c'est pas dans mon coude, c'est pas dans mes genoux, c'est vraiment ici dans mon être intérieur, il vit en moi et ce fleuve est appelé à couler. Et autant il sort de moi, autant il est en moi, autant, selon ce que dit Ézéchiel, moi je suis en lui. Je suis totalement en lui, il est totalement en moi. Et quand vous lisez Ézéchiel au début, les premiers versets, on s'aperçoit, pour faire simple, je ne vais pas prendre toute la symbolique, toute la géographie, etc. On n'a pas le temps ce matin. On va simplement retenir quelque chose de très simple, c'est que c'est l'eau qui sort de la maison. C'est l'eau qui sort du sanctuaire. Dans le langage de l'Ancien Testament, chaque fois que vous lisez la maison de Dieu, le temple, le sanctuaire, c'est une façon d'exprimer ce que le Seigneur allait faire, puisque maintenant, depuis la venue du Saint-Esprit, le temple n'est plus un lieu matériel. Le temple est un lieu spirituel. Le temple, c'est aucun bâtiment sur cette terre. Dieu a dit, je n'habiterai pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dieu a toujours voulu habiter dans nos cœurs. Et le temple, l'endroit où nous rencontrons Dieu, c'est pas l'église évangélique de la rue des Ponches. L'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont été rachetés, qui se sont repentis, qui sont venus à Jésus-Christ, qui ont confessé leurs péchés, qui sont nés de nouveau, qui lui ont donné leur vie. Il est venu s'installer, il est venu faire sa demeure en nous. Et maintenant, Dieu a enfin, depuis la Pentecôte, pu réaliser ce qu'il avait toujours réalisé, obtenu ce qu'il avait toujours voulu obtenir, c'est-à-dire notre cœur. Parce que Dieu n'a rien à faire des bâtiments, il n'a rien à faire des bâtiments, il n'a rien à faire des pierres, il n'a rien à faire des pierres précieuses, des carrelages. Dieu dit, je suis dans le ciel, les cieux des cieux m'appartiennent, le ciel est mon trône et la terre c'est mon marchepied. Alors quelle maison est-ce que vous allez me bâtir? Vous ferez jamais rien d'assez beau et d'assez grand pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut simplement cette vie de communion avec nous, il veut simplement que nous soyons son temple. Et Jésus dit bien, à celui qui croit, des fleuves d'eau vive sortiront de son être intérieur jusque dans la vie éternelle. Ézéchiel nous montre que l'eau, le fleuve, la vie de l'esprit, elle sort de l'intérieur de la maison. Elle sort de moi, elle sort de vous. Amen. Il est autant en moi que moi je suis appelé à être en lui. Ce qui va m'interpeller dans ce texte d'Ézéchiel, c'est que nous sommes appelés à progresser dans notre relation avec le Saint-Esprit. Dieu n'est pas le Dieu des gouttes. Dieu n'est pas chiche. Dieu n'est pas avare. Dieu est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu de surabondance, c'est un Dieu généreux et Dieu parle toujours dans sa parole d'abondance. Lorsqu'il parle du vent, il parle d'un vent puissant. Lorsqu'il parle d'un feu, il parle d'un feu puissant. Lorsqu'il parle de l'eau, il parle d'un fleuve, pas de quelques gouttes qui tombent comme ça. Il parle d'un fleuve et même des fleuves. Et ce que Dieu veut, c'est nous amener dans une vie abondante avec lui, dans une vie de plénitude, une vie remplie de son esprit. Et nous sommes, selon ce que Ézéchiel nous montre, nous sommes appelés à progresser dans notre relation avec l'Esprit de Dieu. Et peu importe ce matin l'endroit où vous en êtes dans votre vie avec Dieu, de toute façon, c'est bien, mais Dieu veut plus. Peut-être vous êtes comme dans cette première étape où vous auriez de l'eau jusqu'aux chevilles. Si on considère Ézéchiel 10 chapitres plus tôt, la vision, on partagera ça quand on abordera la thématique du vent. Si on considère Ézéchiel au chapitre 37, on s'aperçoit qu'il y a une vallée d'ossements et quand le vent, le souffle de Dieu fait son œuvre, ces ossements, cette vallée de mort devient une vallée de vie. Et il nous est dit que tous ceux qui étaient morts se tenaient debout sur leurs pieds. Et là, dans le fleuve, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Il est debout sur ses pieds. Ça peut être pour beaucoup, pour nous, ça peut être l'image simplement de notre nouvelle naissance. Nous étions morts à la vie avec Dieu, et puis parce que nous l'avons accepté, comme je l'ai dit, parce que nous nous sommes repentis, parce que nous avons mis notre foi en lui, et bien simplement, il nous a régénérés, il nous a ressuscités, notre esprit qui était mort aux choses de Dieu a été ressuscité par le Saint-Esprit, nous sommes à nouveau connectés avec Dieu dans une relation intime, spirituelle, et il est là, il vit en nous. Et nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire que nous sommes enfin vivants. Nous sommes enfin debout. Ça va? Il y a des vivants ce matin? Alors s'il y a des vivants, si vous êtes sur vos pieds, je passe à l'étape suivante. Si quelqu'un n'avait pas fait cette expérience, eh bien la première étape, c'est d'être relevé, régénéré, ressuscité intérieurement par la puissance du Saint-Esprit, par le moyen de la foi, en confessant Jésus-Christ, et on est ensuite, dans l'image, on est debout. Et on a les pieds dans le fleuve. Seulement, c'est pas suffisant. C'est bien d'être né de nouveau. C'est bien de savoir qu'un jour on ira au ciel. C'est bien d'être sauvé. Maintenant, je vais vous montrer beaucoup de bienfaits lorsqu'on va plus loin dans notre relation avec Dieu. Ensuite, il va l'emmener un petit peu plus loin. Et puis, en l'emmenant plus loin, il va avoir de l'eau jusqu'aux genoux. De l'eau jusqu'aux genoux, les genoux, ça pourrait nous faire penser dans la symbolique à notre vie de prière, à notre communion avec Dieu dans une certaine discipline, une certaine rigueur. On a établi un certain bon principe avec lui. On commence à avoir une régularité de vie avec lui dans la prière. Mais, même si c'est bien, vous allez voir qu'il peut manquer encore énormément de choses et le Seigneur veut encore l'emmener plus loin. Et le Seigneur emmène Ézéchiel plus loin dans la vision et il veut nous emmener plus loin dans la compréhension de sa personne et de ce qu'il veut et peut faire pour chacun d'entre nous. Quand vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est bien, mais vous n'êtes absolument pas rafraîchi. Il y a beaucoup de bienfaits du fleuve que vous ne pouvez pas avoir. Quand vous avez de l'eau jusqu'aux genoux, il y a beaucoup de bienfaits du fleuve que vous ne pouvez pas avoir. Mais c'est bien, vous êtes dedans, vous êtes sauvé, vous avez déjà, on va dire, une petite vie sympathique avec Dieu. Mais, quand vous êtes debout, quand vous avez de l'eau aux chevilles ou jusqu'aux genoux, de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'allez nulle part. Pour être entraîné par le fleuve de l'Esprit, pour entrer vers ce qu'il a prévu pour nous, il faut absolument être dans le fleuve. Parce que quand vous êtes au bord, c'est bien, mais vous n'allez nulle part. Vous êtes soit debout, de temps en temps vous êtes fatigué, vous vous asseyez. On fait un peu les plagistes. On met les chaises longues. On est au bord du fleuve, les pieds dans le fleuve. Et puis, quand vous êtes avec de l'eau jusqu'aux chevilles ou jusqu'aux genoux, vous faites de toute façon que ce que vous avez envie. C'est pas le fleuve qui vous dit où aller. C'est vous qui allez où vous avez envie d'aller. Ah non, pas elle, j'ai pas envie de la voir. Je vais par là. Ah non, pas lui, j'ai pas envie de le voir. Hop, je... Par contre, j'ai quand même une vie de prière. Ben, bien sûr, je sais me mettre à genoux, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, et puis je sais prier. Puis je dis, ah Seigneur, règle ci, Seigneur, arrange ça, Seigneur, bénis ça, Seigneur, fais ci. Ah, je comprends pas, le Seigneur, il a toujours pas fait ça. Ah, je comprends pas, ça fait des années que je prie pour ça, il s'est rien passé. Bon, ben écoute, ah Seigneur, fais ci, ah Seigneur, fais ça. Et puis il y a quelque chose, il y a une communion, oui, il y a une relation, mais en vérité, quand vous êtes au bord d'un fleuve, que vous ayez de l'eau jusqu'aux pieds ou jusqu'aux genoux, de toute façon, la vérité, c'est que vous faites que ce que vous voulez, c'est vous le patron, et vous n'allez nulle part. Et puis, vous conviendrez avec moi que quand il y a quelqu'un qui nous embête un petit peu, vous pouvez l'éclabousser et lui envoyer toute l'eau et tout le sable que vous voulez. Nous, ça passe par là. C'est la vie. On est sauvé, on ira au ciel, mais c'est la vie, malheureusement, de beaucoup de croyants, une vie qui, en vérité, n'a pas de sens, n'a pas de direction véritable. Alors, Dieu aime ses enfants, il aime celui qui est né de nouveau, qui est debout, les pieds dans l'eau, il aime celui qui a une vie de prière, qui est sur ses genoux, il aime celui qui le prie, qui a une communion avec lui. Ok, très bien, mais Dieu veut aller plus loin. Le but, de toute façon, c'est que chacun puisse être totalement immergé dans le fleuve et que le fleuve puisse le porter et l'emporter. Et puis, il y a une phase intermédiaire, celle-là, je l'aime beaucoup. C'est cette phase où on a de l'eau jusqu'aux reins. Le prophète a été emmené encore un petit peu plus loin et il a de l'eau jusqu'aux reins. L'eau jusqu'aux reins, ça pourrait évoquer pour nous une vie de droiture, puisque Jésus dit dans l'Apocalypse, je suis celui qui sonde les reins. Éphésiens 6 dit, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. C'est-à-dire que le fait d'avoir de l'eau jusqu'aux reins, ça pourrait déjà évoquer pour nous une sanctification, une droiture de vie. Je commence à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Je commence à vivre une vie qui sera de plus en plus en conformité avec la parole de Dieu. Mais, quand on est avec de l'eau jusqu'aux reins, on n'a toujours pas trouvé le sens réel de notre vie chrétienne, on n'a toujours pas trouvé le pourquoi, non pas le pourquoi, le but, l'objectif, non pas la raison, non pas le pourquoi en un seul mot, mais trouver le pourquoi, le but, l'objectif. Oui, Seigneur, tu m'as sauvé. Oui, j'ai une communion avec toi. Oui, tu m'as guéri. Oui, tu m'as rétabli. Oui, tu m'as restauré. Oui, je vais de mieux en mieux, merci Seigneur. Mais c'est quoi? C'est juste pour moi ou ça doit servir à quelque chose? Je vais aller où avec tout ça? Seigneur, tu m'as sauvé. Et non seulement je suis sauvé, mais tu m'as toujours pas repris et t'es toujours pas revenu. Donc, à quoi ça sert? Le Seigneur, voulant emmener le prophète et voulant nous emmener plus loin, va faire en sorte qu'il ait de l'eau jusqu'aux reins. Et là, il y a un truc qui est terrible, c'est que vous avez fait cette expérience, si vous avez déjà été vous baigner dans un fleuve ou dans un lac ou dans la mer, c'est que tant que vous mettez vos pieds, l'eau, elle est à peine froide, mais ça va. Elle, en général, elle est bonne. Ensuite, vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Et vous progressez, vous avancez. Et quand vous avez de l'eau jusqu'aux reins, là, il y en a qui font... Là, vous avez une réaction qui est quand même assez bizarre, mais on fait tous pareil. C'est que quand on a de l'eau jusqu'aux reins, on fait... Parce qu'il y a un choc à ce moment-là. Je sens à ce moment-là que entre l'Esprit de Dieu et moi, il y a un choc. Ça peut pas durer. Je sens que il y a certaines vagues de l'esprit qui viennent. Je sens la force du torrent qui commence à me prendre. Je sens l'esprit, oui, l'esprit qui lutte avec moi. Je sens l'esprit qui voudrait commencer à me pousser, à m'entraîner. Et puis je sens les vagues de l'esprit qui viennent sur moi. Et ça fait comme un choc thermique, mais ça fait un choc entre lui et moi. Je sens qu'il m'attire. Il y a ma volonté qui est là, qui résiste. C'est vrai que quand j'étais de l'eau jusqu'aux pieds ou jusqu'aux genoux, je vivais pas grand chose avec Dieu, mais au moins je faisais ce que je voulais. Et quand j'ai dit, oh, Seigneur, je voudrais aller plus loin avec toi, le Seigneur il dit, bah oui, bien sûr, on va aller plus loin. Tu vas voir, t'inquiète pas. Mais là, je me rends compte que je commence à être secoué. Et il y a des moments, frères et sœurs, dans nos vies, il y a comme des chocs thermiques, il y a comme des chocs entre l'Esprit de Dieu et nous. Il y a de ces moments où le Saint-Esprit nous presse, le Saint-Esprit conteste, le Saint-Esprit permet des situations dans nos vies, parce que ce qu'il veut, c'est non pas nous dominer, non pas nous prendre de force, mais il veut que nous abandonnions totalement au fleuve. Et que lorsque nous commençons à ressentir la force de l'Esprit qui nous presse et qui veut nous emmener, on s'abandonne au fleuve. Et là, quand on a de l'eau jusqu'au rein, vous n'avez que deux possibilités. Je vous ai toujours dit, le royaume de Dieu, c'est un royaume binaire. C'est comme un système informatique. Vous n'avez que deux possibilités, pas trois. Vous avez le choc thermique, vous avez de l'eau qui arrive, vous sentez l'esprit qui commence à vouloir vous entraîner et vous faire vivre autre chose, une autre dimension. Et quand vous, dans l'eau, vous faites, il y a deux possibilités. Soit vous vous abandonnez, vous dites, bon allez, on y va. Et vous vous jetez dans le fleuve, vous vous jetez dans l'eau, ou alors vous faites, oh là là. Et vous reculez. Mais personne ne reste dans l'eau avec de l'eau jusqu'au rein. En général, soit on va dedans, on s'abandonne au fleuve, ou alors on recule. Et malheureusement, pardon, ça peut être l'image, ça peut être la réalité. Beaucoup de chrétiens, face au baptême dans le Saint-Esprit, face au parler en langue, face à la volonté de Dieu, face à la direction que l'Esprit voudrait donner à leur vie. L'Esprit veut pas donner une forme à ma vie, pas seulement me sanctifier. Le Seigneur voudrait pas seulement me façonner. Le Seigneur veut vraiment que je sois totalement abandonné au fleuve. Et il veut que j'aille dans ce fleuve. Et très souvent, malheureusement, quand ça commence, la plupart du temps, je l'ai fait, hein, la première chose qu'on fait, on reprend le contrôle. Ouh là là, attention, il y a peut-être des choses dans ma vie que je n'ai plus contrôler. Ben, ce serait super bien que tu arrêtes de tout contrôler. Parce que quand tu contrôles, excuse-moi, hein, on a vu les résultats. Ce serait peut-être bien que ce soit le fleuve qui n'ont pas contrôle, il va pas dominer, mais que ce soit le fleuve qui emporte et qui fasse son œuvre. Et là, le prophète, et je sais que moi je l'ai fait pour ma vie, d'autres sont en train de le faire, d'autres me l'ont dit, plusieurs me parlent, plusieurs le sentent, et même au niveau de l'Église, il va falloir, frères et sœurs, qu'on commence à passer un cap, il va falloir qu'on aille plus loin dans la vie de l'Esprit, il va falloir que l'Église trouve sa vision, la vision que Dieu lui veut lui donner, où est-ce que Dieu veut emmener l'Église, comment est-ce qu'il veut s'en servir. Mais tout ça, ça se fait que par le fleuve, parce que c'est le fleuve qui emmène. Tant qu'on est au bord, qu'on ait de l'eau jusqu'aux genoux, aux chevilles ou aux reins, avec quelques allers-retours, on est tous beaux, on est tous mignons, on est tous sauvés. Mais on va nulle part. Ma vie, elle va nulle part. Votre vie, elle va nulle part. L'Église, elle va nulle part. Elle reste sur la plage. Et c'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu a des choses nettement plus belles et nettement plus grandes. Et il y a ce verset 5, une fois que le prophète s'est abandonné au fleuve, il dit, le torrent était si puissant, je paraphrase, le torrent était si puissant, là il est immergé dedans, il dit, je ne pouvais pas le traverser. Je ne pouvais pas le traverser. Ça signifie, je n'ai plus pied. J'ai perdu le contrôle. Et frères et sœurs, c'est pas que Dieu nous aime pas, c'est justement parce qu'il nous aime qu'il veut que nous nous abandonnions au fleuve et que nous perdions le contrôle. On veut, c'est humain, on veut tout gérer, on veut tout canaliser, on veut tout rationaliser, on veut tout comprendre, on veut tout encadrer. Même le Saint-Esprit, on veut le mettre dans des petites cases. La réunion, elle doit être comme ça, et comme ça, et comme ça. Et le pasteur, il doit être comme ça. Et la sœur, elle doit être comme ça. Et le chantre, il doit être comme ça. Les musiciens, comme ça. Le Saint-Esprit, comme ça. Le bâtiment, comme ça. Poum, 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 poum. Ah, je connais bien cette église. Dans ce genre d'église, on vit rien. On passera à raconter d'histoire. Parce que le Saint-Esprit ne contrôle rien, parce qu'on l'a enfermé. On l'a canalisé. Et là, il est en eau profonde. Je ne pouvais le traverser. Il a perdu le contrôle. Il a perdu pied. Il n'y a pas des moments dans vos vies, frères et sœurs. Ça fait un moment que vous priez pour des situations, une autre. Je prie pour ça, je prie pour ça. Excusez-moi, il ne se passe rien et vous le savez. On est toujours au point mort. Il y a tellement de domaines de nos vies où, excusez-moi, on prie, on prie, on prie, on prie, il ne se passe rien. Il faudrait que ça nous vienne à l'idée que peut-être le Seigneur voudrait qu'on s'abandonne au fleuve. Parce que la Bible me montre qu'il y a une certaine dimension de miracle que vous ne pourrez vivre que lorsque vous êtes dans le fleuve. Il y a certaines dimensions de miracle et d'action de l'Esprit que vous ne vivrez que dans le fleuve. En Luc chapitre 5, lorsque Simon-Pierre est là, il est au bord du rivage, c'est le récit de la pêche miraculeuse. Il est au bord du rivage. Et puis le Seigneur lui dit quelques paroles qui sont très simples, mais qui sont très édifiantes pour nous. Le Seigneur lui dit, éloigne-toi un peu de terre. Il le fait aller un petit peu dans l'eau. Au moment où il le fait s'éloigner un petit peu de terre, Jésus est sur la barque, la foule est sur le rivage, la voix de Jésus est portée par l'eau pour atteindre la foule, et puis là, la foule est enseignée, et Pierre est dans la barque, les disciples sont là avec leur barque, ils sont tout proches de Jésus, ils sont un petit peu dans l'eau, pas sur la terre, mais pas franchement en pleine eau. Ils sont entre deux, puis ils entendent ce que Jésus dit, ils entendent la parole. On ne sait pas ce que Jésus a enseigné à ce moment-là. Et puis quand Jésus a fini d'enseigner la foule, il dit à Pierre, maintenant, va en pleine eau. Et c'est seulement quand Pierre et les disciples sont en pleine eau, c'est seulement quand Pierre est en pleine eau et qu'il a perdu pied, il a perdu le contrôle, puisqu'il a pêché toute la nuit, il a rien pris. Sa vie, elle est stérile. Sa pêche, elle est stérile. Ce qu'il essaye de faire, c'est stérile. Ce qu'il essaye de produire, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Pourtant, il est chrétien depuis des années. Je suis, vous êtes chrétien depuis des années. Jésus est dans ma barque, super merveilleux, amen. On a de l'eau un petit peu, plus ou moins par là. Mais la vérité, c'est que on tourne en rond, il se passe pas grand-chose. Et là, Jésus dit à Pierre, va en pleine eau. Et c'est au moment où Pierre est en pleine eau, au moment où il perd le contrôle, qu'il va être testé, que le Seigneur va lui lancer ce défi de foi, lui demander un acte d'obéissance et de lui dire « Maintenant, tu vas jeter le filet de l'autre côté. T'as toujours fait comme ça, t'as toujours vécu comme ça, t'as toujours pensé comme ça, t'as toujours raisonné comme ça et la preuve, ça fait 30 ans, t'es toujours au même point. Maintenant, je vais te demander de passer de l'autre côté, de raisonner différemment, de penser différemment. Je vais te demander une vie différente. Mais ça, je vais pouvoir te le communiquer si tu rentres dans une dimension de foi, de confiance avec moi. À celui qui croit, dit Jésus. Croire, obéir, faire confiance, tout ça, c'est la même chose. À celui qui croit. Et Pierre obéit, et à ce moment-là, il y a une grande quantité de poissons. Le miracle a lieu. Le miracle, il a eu lieu. Où ? En pleine eau. Pas au bord du rivage. Pas où il avait juste un petit peu pied. Frères et sœurs, je ne sais pas de quoi vous avez besoin ce matin. Je ne sais pas quels sont les miracles après lesquels légitimement vous espérez, ce que vous demandez au Seigneur, ce que vous attendez de lui. Mais la priorité des priorités pour les chrétiens que vous êtes, c'est pas le miracle. La priorité, c'est de trouver ou de retrouver la vie du fleuve. Il y a certains miracles que vous ne vivrez dans vos familles que si il y a une dimension de vie avec le Saint-Esprit. Il faut que les fleuves jaillissent de vous et il faut que vous soyez immergés dans le fleuve. Et il y a certaines dimensions de miracles qu'on attend légitimement. On les attend, on les attend, on les attend, on les attend. Il n'y a pas un moment où je vais me dire, tiens, je ferais peut-être quand même mieux d'aller un petit peu plus dans le fleuve parce que lui, il va avoir plus de résultats que moi. Là où on perd pied, quand on est en eau profonde, il y a une qualité de vie, frères et sœurs, je vais vous en parler rapidement. Il y a une qualité de vie et il y a aussi une efficacité que vous n'aurez que dans le fleuve, en pleine eau. Alors, très simplement, quelques caractéristiques du fleuve. Ce qui est extraordinaire avec ce fleuve que l'Esprit de Dieu, la première chose qui m'a marqué en méditant sur le fleuve, c'est que le fleuve, il me porte. C'est bête à dire, hein. Mais vous savez, quand vous êtes sur le rivage, que ce soit sur vos chevilles ou à genoux, de toute façon, vous marchez. Mais il y a un truc que vous connaissez, hein. C'est que marcher, c'est fatigant. Au bout d'un moment, marcher, c'est fatigant. Il y a combien de chrétiens, pardon, c'est pas méchant, dans combien d'églises qui depuis longtemps essayent, font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de marcher d'une manière digne de Christ. C'est vrai, c'est écrit. Combien d'efforts déployés pour des résultats si maigres. Vous savez ce qu'il fait le fleuve, lui ? Il vous porte. Et quand le fleuve vous porte, ça s'appelle, c'est grâce à la poussée d'Archimède, hein, je sais autre chose. Quand le fleuve vous porte, ce qui est extraordinaire, c'est que même ce qui est lourd, le fleuve le porte. Le fleuve porte tout. Le fleuve a une puissance extraordinaire. Le fleuve est capable de porter des immenses paquebots, des immenses navires. Le fleuve a une telle puissance qu'il porte tout et qu'il conduit tout. Mais ça, je peux le vivre que lorsque je suis dans la vie du Saint-Esprit, dans le fleuve. Et ça veut dire que pour moi, pour vous, pour n'importe quel chrétien qui veut rentrer dans cette dimension de vie, ça va être fini, ce côté pénible. Il faut pas se raconter de salade, c'est la vérité. Pour beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne est terne. Elle est difficile, elle est monotone, elle est improductive et elle n'est pas épanouissante. Et ben quand c'est comme ça, faut se poser les vraies questions. Parce que nulle part dans sa parole, Jésus vous a offert une paire de rames pour avancer. C'est pas écrit, c'est pas biblique. Vous savez, avant d'être pasteur ici à Manosque, j'étais en Normandie, mais j'aimais déjà beaucoup la Provence. Et puis un été avec Anne et les enfants, pendant les vacances, on avait été à Esparron de Verdon, le lac d'Esparron. Ah, je dis, ouais, c'est beau, le lac d'Esparron, on va aller vers les gorges là-bas, tout ça, super. Et puis, je loue deux canoës. Et puis, je me mets dans un canoë avec ma fille. Et puis, je mets ma femme, Anne, et puis Mathieu, dans un autre canoë. Et puis là, il y a un truc que j'avais pas pensé. C'est que le lac, c'est un truc fermé. Il n'y a pas de courant. On n'est jamais emporté. On n'est jamais aidé. Tout se fait à la force de nos bras. Au début, vous regardez, c'est merveilleux. C'est comme la vie chrétienne au début. Vous regardez, c'est fantastique. Ah, c'est beau. Ah, le Seigneur, il peut faire ça. Ah, le Seigneur, il peut faire ça. Ah, le Seigneur, il a fait ça. Et là, la première fois que j'ai vu Esparron de Verdon sur mon canoë kayak, comme ça, je ramais. Ah, je dis, c'est merveilleux. Ah, c'est beau. Ah, c'est merveilleux. Puis au bout d'un moment, je regarde derrière moi. J'avais déjà perdu Anne et Mathieu. Ils étaient loin, très loin. Ils ont dit, bah, c'est quoi ce truc là? On est obligé de ramer. C'est pas marrant, c'est pas drôle. Je dis, bah, c'est le principe. Il faut ramer et tout. Puis même moi, au bout d'un moment, je rame. Puis au bout d'un moment, je dis, bon, c'est beau, c'est pas rond, mais enfin, c'est pénible quand même. Toujours obligé de ramer. Pardon. Il y a des gens au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans de vie chrétienne, ils arrivent et disent, c'est normal que je sois obligé de ramer comme ça. Vous, pasteur, t'es conscient des efforts que je fais sincèrement, hein, vraiment, hein, dans ma bonne volonté, je suis conscient, pour être chrétien, pour essayer d'honorer Dieu, pour essayer d'être un bon chrétien. Et les résultats, ce que je dépense par rapport à ce que j'ai avancé, j'ai déployé, j'ai avancé de ça. Et la vie chrétienne devient, mais bien sûr, on va pas se mentir, ça devient hyper pénible. C'est très décourageant. La vie est sclérosée, c'est étriqué. D'un seul coup, le lac sur lequel j'essaye d'évoluer me paraît plus beau. Il me paraît simplement comme une prison. Je suis enfermé dans ce lac. Je suis obligé de produire des efforts de fou pour si peu de résultats. Frères et sœurs, quand on connaît cet aspect lourd, pénible, monotone de la vie chrétienne, eh bien, il y a une chose très simple à faire. C'est de s'abandonner au fleuve de l'Esprit. C'est de s'abandonner au Saint-Esprit. Et quand je suis rentré en Normandie, j'ai trouvé un petit fleuve super sympa. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Et avec Mathieu, on a été faire du kayak sur ce fleuve. Mais sur ce fleuve, il y a du courant. Un peu aussi. Des fois, il y a des rapides avec le Saint-Esprit aussi. Des fois, il y a des rapides. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Ça va vite. Non, t'inquiète pas, je pilote. Le Seigneur, il contrôle tout. Je pilote. Et là, avec Mathieu, on s'est mis sur le fleuve. On s'est mis sur le canoë kayak. Il était devant, j'étais derrière. On avait chacun une rame. Et puis, on a mis un petit coup. Et là, on a commencé. Et puis, de temps en temps, hop, un petit coup pour redresser à droite. Hop, un petit coup pour redresser à gauche. Mais on n'a pas ramé comme des fous. Et quand je considère le peu qu'on a ramé par rapport à toute la distance qu'on a faite, je me dis, ah, c'est quand même mieux sur le fleuve que sur le lac. Hein. Frères et sœurs, le fleuve, il me porte. Le fleuve, il va me soulager. Le fleuve, je dis pas que dans la vie chrétienne, faut être des paresseux. Je dis pas qu'on est des feignants. Je dis simplement que le fleuve, il va me porter, il va me soulager. Le fleuve a des capacités, il a des ressources que tu n'as pas. Et vivre une vie dans laquelle je suis immergé dans le Saint-Esprit et dans lequel non seulement je suis totalement en lui, mais lui est totalement en moi, eh bien ce fleuve, il va tout porter. Et ma vie chrétienne, elle est beaucoup plus productive. Ma vie, elle est beaucoup plus reposante. Il me soulage. Le fleuve me porte. Comment vous voulez vivre une vie chrétienne si vous n'êtes pas porté par l'Esprit de Dieu ? En pleine eau, le fleuve me porte. En pleine eau, le fleuve me rafraîchit. Dans la chaleur de l'épreuve, là bientôt les fortes chaleurs, elles arrivent là. Là aujourd'hui c'est rien encore, ça arrive. Mais bientôt, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous êtes ici depuis plus longtemps que moi. Les 40, 42 des après-midi là de l'été, ça arrive. Et quand il fait 40 ou 42, quand on est soumis à la chaleur de l'épreuve, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez pas trois gouttes en disant, oh. Oh, mais c'est bon, moi, ça me suffit. Vous savez, faut pas être excessif avec Dieu, hein. Pas trop, hein. Du moment que je suis venu à l'église dimanche, ça suffit, hein. Oh, voilà. Trois gouttes, et puis c'est bien. Non, 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 non. Vous allez chercher franchement à vous rafraîchir. Si vous êtes au bord du fleuve avec de l'eau jusqu'aux genoux, ou jusqu'aux chevilles, ou même jusqu'aux reins, de toute façon, il y a une très grande partie de votre corps, une très grande partie de votre vie, qui n'est pas rafraîchie par le fleuve, qui est soumise en permanence à la chaleur de l'épreuve. Le fleuve, il me rafraîchit. Je suis totalement dans le fleuve. Ça veut dire que ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, va être continuellement rafraîchie, irriguée, entretenue dans les luttes, dans les combats, dans l'adversité, dans la chaleur de l'épreuve. Pardon, dans toutes les églises, même au bout de 30 ans, j'entends encore une fois, j'avais quelqu'un au téléphone, pas ici, j'avais quelqu'un au téléphone, au bout de 45 ans de vie chrétienne, face à un problème, qui disait, oh, je me demande quand même ce que j'ai bien pu faire pour que le Seigneur m'envoie ça. C'est quoi cette conception d'un Dieu qui fait en sorte qu'il m'arrive rien? Ce Dieu-là n'existe pas. Le Dieu qui fait en sorte qu'il ne vous arrive rien, que vous n'ayez pas de combat, pas de chaleur, pas d'adversité, pas d'épreuve, ce Dieu-là, il n'existe pas. Je suis désolé, je ne vais pas vous le vendre, je ne peux pas vous vendre ce que j'ai pas. De toute façon, je ne suis pas commercial. Mais il n'existe pas. Ce Dieu n'est pas le Dieu qui fait en sorte que j'ai pas de chaleur, pas d'épreuve, pas d'adversité, pas de problème. C'est le Dieu qui va se présenter à moi comme un fleuve et qui me dit, si tu te laisses immerger en moi, je vais te porter, je vais te rafraîchir. Et face à la chaleur de l'épreuve, ben enfin, ça y est, tu es rafraîchi. Pourquoi le Seigneur permet des temps d'épreuve, des temps de chaleur? C'est parce qu'il sait pas quoi faire, il savait pas quoi faire cette semaine, alors il s'est dit, tiens, je vais encore en coller une à Cathy, et puis une autre à Vincent, et puis tiens, comme ça, ça leur fera des sujets de prière mardi soir, ah ben, ça les occupera comme ça. Ben oui, en attendant qu'on aille au ciel, faut bien qu'on prie pour quelque chose. Pourquoi le Seigneur, il permet des temps d'épreuve et d'adversité? Parce qu'il faut qu'on trouve le fleuve. L'épreuve, elle m'amène à la vie de Dieu. L'épreuve, je vous l'ai dit dans d'autres thématiques, ce sont autant de marches, des marchepieds qui m'emmènent plus loin, plus haut. L'épreuve, elle est là pour me faire réaliser mon manque de Dieu. T'as chaud, mais tu manques d'eau. T'as chaud, eh ben, faut pas dire au Seigneur de baisser la température, c'est trop facile. Le Seigneur, il dit non, je veux que tu trouves le fleuve. Parce que quand t'auras trouvé le fleuve, t'auras tout trouvé. Et là, tu vas avoir une vie différente. Là, tu vas avoir une vie beaucoup plus puissante, beaucoup plus rafraîchissante. Et ta vie chrétienne, elle va être authentique, elle va être fraîche. Une vie chrétienne qui soit continuellement rafraîchie. Ok ? Le fleuve me porte, le fleuve me rafraîchit. Qu'est-ce qu'il fait aussi le fleuve ? Ben, le fleuve, il me conduit là où j'ai pas envie d'aller. Parce que je vous l'ai dit sur le rivage, on fait ce qu'on veut, mais on va nulle part. Et on ne trouve pas le sens profond de notre vie chrétienne. En pleine eau, le fleuve, il me conduit. Le fleuve, vous avez déjà vu un fleuve, il a un sens. L'eau, elle va dans un sens. Ce qui est sur le fleuve va dans le sens du fleuve. Les chrétiens qui sont plongés dans la vie de l'Esprit, ils vont dans le sens du Saint-Esprit. Ils vont pas dans le sens de « moi je pense que, moi j'ai envie que, non moi je suis pas d'accord avec ça, non de toute façon j'irai pas lui demander pardon, non de toute façon je vois pas pourquoi non, et puis pourquoi si, puis pourquoi elle fait ça, et puis pourquoi elle a dit ça, et puis ouais c'est bien, t'as de l'eau jusqu'au pied. » Tu nous éclabousses beaucoup quand même. Hein. Le fleuve, il va me conduire où j'ai pas envie. Il va y avoir une perte de contrôle sur beaucoup de choses. En d'autres termes, quand je suis dans le fleuve, c'est plus moi le patron, c'est lui. Et le Seigneur, l'Esprit, Dieu le Saint-Esprit, ce fleuve, en me conduisant, va pouvoir m'amener vers des gens vers lesquels je ne serais pas allé spontanément. Mais il me conduit, il me porte, il me pousse vers eux. Il va pouvoir me conduire vers des choses, vers des œuvres. Là, c'est plus moi le patron, c'est pas moi, je pense, je décide, je choisis, j'estime que je dois faire ci, que je dois faire ça. Non, c'est lui qui porte, c'est lui qui me conduit et je suis conscient, j'ai foi. Foi en lui, qui me conduit pas vers ce que j'ai choisi, mais il me conduit vers ce qu'il y a de meilleur. Et le meilleur, de toute façon, tant que j'ai pas par la foi accepté qu'il me conduit, je le trouverai pas. Et quand je suis dans le fleuve, je réalise, je raisonne différemment. Je dis, Seigneur, où est-ce que tu veux m'emmener? C'est pas Seigneur, bénis-moi, Seigneur, viens, Seigneur, agis, Seigneur, exauce. C'est Seigneur, où est-ce que tu veux m'emmener avec cette situation? Seigneur, où est-ce que tu veux me conduire avec ce problème? Seigneur, dans tel aspect de ma vie, tel aspect de ma vie, tel aspect de ma vie. Seigneur, vers quoi est-ce que tu veux me conduire? Où est-ce que tu veux m'emmener? Et là, je me laisse porter, conduire par le fleuve. Je me laisse conduire par le fleuve vers ce que lui a prévu. Et je me laisse conduire vers mon appel. Je me laisse conduire vers les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance pour moi. C'est pas méchant ce que je vais vous dire. Ça concerne des milliers de chrétiens. Il y a tellement de chrétiens. Pardon, c'est pas méchant du tout. Il y a tellement de chrétiens. Oui, on est chrétiens. Oui, si Jésus revient ce soir ou s'il vous appelle, vous irez au ciel. Mais tellement de chrétiens qui n'ont pas trouvé la direction de leur vie chrétienne, le sens. Tu es chrétien. Pourquoi? Pour quelle raison? Ben parce que tu étais pécheur, Dieu dans un amour passionnel ne pouvait pas concevoir l'éternité sans toi, il t'a tellement aimé, il t'a travaillé, il s'est révélé, t'as fini malgré ton endurcissement, t'as fini par dire oui, t'as fini par te repentir, t'as fini par te convertir, t'as fini par l'accepter, tu as été sauvé. Pourquoi? Ben t'étais perdu. Ça c'est la raison. t'as accepté, tu as été sauvé. Mais une fois que je suis sauvé, l'église, le bâtiment église évangélique, pardon, devient la salle d'attente du ciel. Oui, mais si le Seigneur n'avait rien à faire avec toi, ça fait longtemps qu'il t'aurait repris ou qu'il serait revenu. Si tu es encore là en tant que chrétien, c'est qu'il y a un sens. Le Seigneur a un plan pour toi, il y a quelque chose. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a parfois juste même pas conscience que Dieu a un plan pour nous. Et que notre vie chrétienne, portée, conduite, rafraîchie, conduite par le fleuve, et le Seigneur va me faire trouver le sens profond, le pour quoi il m'a sauvé. Pour servir, oui d'accord, mais concrètement, dans quel but, avec quel objectif, pour quoi, dans quel but, pourquoi, en deux mots, le Seigneur m'a sauvé et puis m'a toujours pas repris. Qu'est-ce que je fais encore ici? Mais ça, je ne peux le savoir, le comprendre et le vivre que lorsque je me suis abandonné au fleuve. Et là, le fleuve me conduit vers les œuvres que je ne soupçonne pas, vers des gens que je ne soupçonne pas, dans des endroits auxquels je n'aurais jamais pensé, simplement pour être son témoin, pour faire son œuvre. Il y a tellement de choses, frères et sœurs, qu'on ne soupçonne pas encore. Mais la priorité des priorités, c'est de s'abandonner au fleuve. On terminera, je reparlerai de ce texte la semaine prochaine, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à dire sur l'efficacité du fleuve, la longévité qu'il nous apporte, les résultats que le fleuve va produire, l'abondance de vie que le fleuve produit partout où on le laisse couler. Je partagerai ça avec vous la semaine prochaine, mais peut-être simplement ce matin, juste de considérer comme Ézéchiel, la priorité des priorités, c'est de s'abandonner au fleuve et de laisser le fleuve nous porter, nous rafraîchir, de laisser le fleuve nous conduire. Amen.